entre maintenant, comme j'ai dit tantôt, dans une période de préparation spirituelle pour Noël. Et certaines églises appellent ça l'Avent. Ça vient du mot latin Adventus, qui veut dire l'arrivée. Et alors, on voit bien que les magasins se préparent pour l'arrivée de Noël depuis déjà quelques semaines. Oui, c'est ça. Et c'est une autre sorte de préparation. Donc, nous, on a une double tâche de nous préparer, mais aussi de contrecarrer une certaine vision nouvelle de Noël qui perd de vue le vrai sens. Nous, les chrétiens, nous portons ce message. Il faut, dans le monde, apprendre à reconnaître Dieu, à le voir. Parce que Dieu est venu et les hommes ne l'ont pas reconnu. On peut voir Dieu présent dans le monde si Dieu, dans sa grâce, nous ouvre les yeux. Et en fait, pour nous, il y a une tâche vraiment intéressante. Le Messie est venu luire, comme briller dans les ténèbres. Et nous, qui sommes les chrétiens, qui avons reçu Christ, nous sommes devenus, par sa présence en nous, des petites lumières dans le monde qui pointent vers la vraie source de lumière, qui est Christ. L'apôtre Pierre le dit comme ceci. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer des louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ça, c'est toute notre vie. Mais il y a un appel, je crois, spécial dans notre monde d'aujourd'hui, à l'époque de Noël. Je me souviens d'un épisode qui m'est arrivé à moi, au Jardin d'Orval, le centre d'achat, il y a quelques années. Enfin, il y a plusieurs années, en réalité. Et ça s'est passé dans le temps de Noël, peut-être une dizaine de jours avant Noël, peut-être un peu moins, je ne m'en souviens pas. Et Dieu m'avait demandé de faire briller ma lumière. Et il m'a vraiment aidé à le faire. En fait, je traversais le passage piéton, le trottoir à la sortie du centre d'achat Jardin d'Orval, quand une voiture qui sortait du stationnement du centre d'achat a embouti une autre voiture assez fortement, a heurté une voiture stationnée. Et la personne qui conduisait a essayé de se dérober et de quitter le stationnement comme si de rien n'était. Sauf qu'il restait un obstacle pour que sa voiture sorte du stationnement. Moi. J'étais encore en train de traverser devant cette voiture qui fuyait. J'avais tout vu. Et il y avait une voix qui disait en dedans de moi, « Ne t'enlève pas du passage, reste au milieu. » Et en fait, cette voix, c'était comme une force qui m'a fait agir d'une manière qui n'est pas typique de moi. J'ai même fait signe à la madame, parce que c'était une dame, de rester là où elle est. Et je l'ai fait. Et j'étais comme rempli d'une audace qui n'était pas typique de ma vie habituelle. Et je regardais cette dame en question qui était au volant de la voiture et j'ai vu comme dans ses yeux que sur le coup, elle se repentait de sa décision de fuir. J'ai comme vu un changement dans ses yeux. Elle a descendu la fenêtre, la vitre de son auto. On s'est parlé, elle est allée sortir sa voiture du chemin. Et là, elle est venue me voir. Donc, on a appelé la police, on a attendu que la police vienne pour le rapport. Et On a discuté pendant que la police venait. Puis c'est surtout elle qui a parlé. Elle a dit qu'elle ne se reconnaissait pas elle-même dans son réflexe de fuir. Elle avait honte. Elle m'a raconté qu'elle était tellement stressée par l'achalandage du centre d'achat. Et c'est vrai, il y en avait beaucoup des autos et des gens stressés et des gens pressés. Elle était stressée par les pressions de ses préparatifs familiaux pour Noël, au point où elle était presque déprimée. En fait, j'ai pu placer seulement quelques mots. Et je lui ai dit, c'est dommage que dans notre société, on a oublié le vrai sens de Noël, que la naissance de Jésus nous invite à la paix de Dieu, la paix dans nos vies. Et en fait, elle m'a beaucoup remercié pour ce rappel du sens de Noël. Elle m'a même remercié que grâce à mon intervention, qu'elle a évité de faire quelque chose qu'elle aurait regretté. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait un début d'espoir qui renaissait dans ses yeux tristes. Je me souviendrai toujours de cet incident et ça m'a aussi beaucoup encouragé moi-même. Je vous raconte un success story dans ma vie de préparation à Noël, mais vous savez, c'est par la grâce de Dieu. Je pourrais vous raconter aussi des échecs, plusieurs même, mais cette fois-là, j'ai senti que Dieu m'avait vraiment guidé et aidé. Et en fait, pourquoi pas être ce peuple qui désire être une lumière qui pointe vers la vraie lumière en ce temps de Noël? En ce temps où les gens souffrent autour de nous, en ce temps où ils sont complètement distraits par une autre vision de Noël. Et je sais que nous vivons dans un pied dans ce monde-là et nous devons négocier cet aspect. Mais ce matin, je voudrais qu'on se penche sur la possibilité de devenir des lumières plus brillantes. Et Dieu veut nous aider à le faire. Le défi, pourquoi ne pas décider ensemble aujourd'hui d'être ce peuple différent, ce peuple de lumière qui annonce la lumière en ce Noël 2019? Alors, voici le projet. Ou tout au moins la leçon qui va avec le projet. Concentrons-nous aujourd'hui sur l'écoute. Je vous propose que l'écoute de Dieu et l'obéissance à sa voix, ou on pourrait appeler ça aussi la mise en pratique, si vous préférez, l'écoute de Dieu et l'obéissance à sa voix constituent notre part pour permettre à Christ de briller plus fort en moi et en toi. Parce que, comme on a dit plusieurs fois dernièrement, tout vient de la force de Dieu. Ça ne vient pas de nous, mais il nous invite à faire une part pour collaborer avec lui. Et cette part, elle implique quelque chose de très important, écouter et obéir. Il y a une logique là-dedans, mes frères et sœurs. On veut être des témoins de l'Évangile. On invite les gens à se détourner des distractions pour eux-mêmes commencer à écouter Dieu, le voir dans sa présence autour de nous, goûter comme il est bon, connaître son évangile. Alors, c'est logique que pour les invités, la meilleure approche, c'est de le vivre nous-mêmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Le vivre nous-mêmes et d'être en quelque sorte une invitation par la manière que nous vivons. Si nous pratiquons l'écoute de Dieu et qu'on pratique l'écoute qui mène jusqu'à l'obéissance, et si nous expérimentons une joie là-dedans, wow! On écoute Dieu, on pratique des choses qu'on sent qu'il nous demande de faire, on est béni, on est heureux. Ça, c'est une invitation. Notre vie devient une invitation pour ceux qui sont autour. Alors, la bonne nouvelle, quelle que soit ta situation, tu peux vivre cela. Peut-être que tu as eu des gros bonus dans ta job et tu vis dans une période de richesse en ce moment. Peut-être c'est le contraire, tu vis dans une frugalité particulière en ce moment. Mais peu importe, tu peux écouter ton Dieu et les gens vont remarquer que tu vis Noël différemment. Dans ta richesse, tu vas rechercher la simplicité de Christ et puis les gens vont remarquer, « Wow! » C'est un riche différent des autres riches. Enfin, riche. On va dire que des fois, souvent dans la vie, il y a des périodes d'abondance et des périodes de difficulté. Si tu passes par une période de difficulté financière, les gens vont voir, wow, elle trouve sa joie dans l'amour de Christ, pas dans les choses matérielles. Et là encore, c'est une invitation aux autres. La même chose avec la santé. Tu peux être à l'écoute de Dieu à même ta bonne santé ou ta difficulté de santé et mettre en pratique ce que tu sens qu'il est en train de te montrer, de te dire. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on essaye d'être ce peuple différent à Noël en 2019? On essaye-tu? Vous me direz, Marc, attention, tu parles de mettre en pratique, mais c'est la foi qui sauve. C'est la foi, ce n'est pas les œuvres qui sont à la base de la vie chrétienne. Bien, je ne peux pas vous contredire, la Bible dit, c'est par la foi et pas par les œuvres. Sauf que la vraie foi est une foi, premièrement, la vraie foi vient d'où? Qui connaît le verset de Romains 10, 17? La foi vient de ce que l'on entend. Wow, OK. Alors, entendre et puis écouter, c'est pas très loin, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et puis vraiment, écouter, c'est vraiment la manière d'entendre que Dieu veut. Hein? Pensez à vos enfants. Quand tu les appelles pour souper, est-ce que tu veux qu'ils entendent la sonorité de ta voix ou est-ce que tu veux qu'ils écoutent ce que tu leur demandes? L'écoute, c'est l'écoute qu'on veut. Et donc, la foi vient de l'écoute. Et par ailleurs, une vraie écoute de Dieu amène une foi qui nous pousse vers l'action, n'est-ce pas? Sinon, ça court le risque d'être une simple croyance intellectuelle ou émotionnelle. Ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est quelque chose qui nous propulse vers l'action. Hein? Vous connaissez peut-être cette ancienne analogie de la chaise. Je crois que cette chaise est là. Oui. Mais est-ce que je crois dans cette chaise? Ça veut dire, est-ce que je crois assez dans cette chaise pour m'asseoir dedans? Est-ce que j'ai confiance en elle? Hein? Et c'est ça la foi qui sauve, la foi en Dieu sauveur. Il y a plusieurs affirmations dans la Bible qui nous montrent que l'écoute et l'obéissance, c'est la forme d'adoration que Dieu préfère. OK, donc parce qu'on a passé des moments merveilleux tantôt à adorer. Saviez-vous que Dieu dit que l'écoute et l'obéissance est la forme ultime d'adoration? Il y a des choses que la Bible dit qu'il faut rappeler maintenant, qui sont peut-être un peu extrêmes, mais pas vraiment. Premièrement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Hein? Le sacrifice, ce n'était pas rien. C'était prendre un animal qui t'avait coûté très cher à élever, à nourrir et de le brûler comme don à Dieu. Évidemment, il y avait un aspect symbolique, mais n'oubliez pas qu'est-ce que le prophète Samuel a dit au roi Saül lorsque ce roi a pris la décision de devenir indifférent à l'écoute et l'obéissance. Samuel lui a dit, 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? » Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, 22. Frères et sœurs, désirons l'écoute et l'obéissance plus que tout. L'obéissance aussi vaut mieux même que la louange. Aïe, aïe! Comme j'ai dit, on vient de vivre une louange qui nous a fait du bien. Et c'est vrai que souvent, nous vivons des moments extraordinaires de dévotion dans la louange musicale, dans la célébration, même dans des éléments plus, un peu plus rituels, comme le repas du Seigneur. Et nous chantons, nous élevons nos prières. Et c'est important. En fait, Dieu nous demande de le faire. Donc, il y a un aspect d'obéissance en pratiquant ces choses. Mais, ils sont à leur place lorsqu'ils sont enracinés dans une vie d'écoute et d'obéissance à tous les jours. Hein? La louange et le côté émotionnel de ce que nous exprimons à Dieu dans la musique, dans les prières et autres, en fait, c'est un don de Dieu qui va augmenter notre motivation pour servir, pour obéir, pour croire. Mais il faut que ça soit enraciné dans une vie d'écoute. Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël qui avait pris une mauvaise direction, Dieu a dit par le prophète, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. » Oui, oui. Amos 5, 21. « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. » Alors, oui, rassemblons-nous. Oui, adorons Dieu. Mettons l'écoute et l'obéissance d'abord. Et tout cela va plaire à Dieu selon les priorités qu'il nous a données. Comme j'ai dit tantôt, l'obéissance vaut mieux même que la croyance. J'ai dit tantôt, la foi provient de l'écoute et l'écoute nous amène vers la pratique, la mise en action. Voilà pourquoi Jacques dit, dans Jacques 2, 17-18, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. J'entendais un prédicateur récemment qui disait, et puis je me suis tout à fait reconnu là-dedans, sauf que maintenant je suis pasteur. Donc là, c'est plus moi qui prêche le dimanche, mais quand c'était moi qui écoutais les prédications, je me reconnaissais dans ce qu'il disait. Il disait, vous savez, vous là, les pasteurs, nous, les pasteurs, nous mettons beaucoup de temps à préparer des sermons, mais il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église dès qu'ils sont dans leur voiture après le culte et qui mettent la radio, ils ne se souviennent plus de ce que vous avez dit. J'ai dit, oh, quelle pensée décourageante! Et je suis souvent comme ça. On a des bons feelings, on a des bons feelings à l'église. On a écouté des belles choses, mais il y a un effort à faire de retenir quelque chose pour le mettre en pratique. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? Et je blâme personne, mais la nature humaine est telle qu'on aime les bons feelings, on aime les souvenirs des bons feelings, et on oublie écoute et obéissance. L'obéissance vaut mieux que la croyance. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est que la Bible nous dit que l'intimité avec Dieu, elle est comme préparée en nous par l'obéissance. Elle est en quelque sorte, elle passe par l'obéissance, si vous voulez. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, il sauve le pire des pécheurs. Il sauve le plus désobéissant des désobéissants. Je suis d'accord. Et une personne pécheresse peut se tourner vers Christ et recevoir le salut éternel par la grâce de Dieu. C'est vrai. Mais il ne faut pas en rester là. Dieu nous invite à aller plus loin pour devenir apte d'être son confident, devenir son ami. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci à ses apôtres, ses disciples. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Frères et sœurs, en toute humilité, désirons l'écoute et l'obéissance plus que tout. Ceci nous reconnecte avec notre thème de l'année, de demeurer en Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, le temps avance, mais j'aimerais simplement rappeler un peu l'idée, un des thèmes de cette période de l'Avent. L'écoute de Dieu, l'obéissance à sa voix, constitue notre part pour permettre à Christ de briller plus fort en nous. C'est quand même un enseignement délicat. Pourquoi? Parce que nous, des fois, on va, comme on dit en québécois, on va capoter là-dessus. On va devenir nerveux. On va se dire, oh, il y a de la pression sur mes épaules. Non, non, ne le prenez pas comme ça. Ne le prenez pas comme ça. Dieu veut que votre cœur soit entier là-dedans, là où vous en êtes rendu, mais il sait que ça ne sera pas la perfection. Et une partie de l'écoute de Dieu, c'est de reconnaître quand on a manqué notre coup. Et il va nous le montrer comme un père aimant. Et nous pouvons simplement demander pardon. Et c'est à ce moment-là que le sang de Christ vient nous purifier. Et comme ça, on peut continuer à marcher dans la lumière. Hein? Donc, on marche avec un Dieu miséricordieux. Et c'est sa miséricorde qui nous permet d'avoir l'audace d'écouter et de se dire, je vais obéir, je vais mettre en pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est le même exercice que je vous ai donné il y a 3 semaines. C'est la même idée, un exercice d'écoute et d'obéissance. Un exercice de méditation biblique pour cette semaine. Un peu la même idée, avec 4 lectures, sauf que les lectures ont rapport avec la venue du Messie à Noël. Okay? Donc, on va méditer le premier chapitre de Luc ensemble. Et donc, ceux qui veulent le faire avec moi, prenez une photo. Et je voulais aussi envoyer par courriel ceux qui sont sur ma liste. Alors, vous pouvez imprimer le courriel. Et voici les 4 lectures. Et il y en a en fait 3 autres pour ceux qui sont vraiment disciplinés et qui veulent faire sept méditations, une par jour, c'est des textes qui prennent peut-être 5 minutes à lire. Mais comme je vous demande de les lire 2 fois, ça fait 10 minutes. Mais je vais vous rappeler les étapes. Donc, voilà les 4 principales. Puis, il y en a 3 autres ici pour compléter. Mais soyons relax. Si vous en faites seulement 6, ce n'est pas grave. Si vous en faites seulement 4, c'est très bien. OK, donc les 4 premières qui sont là. Et ensuite, les 3 autres. Et on va essayer de faire un partage dimanche prochain sur des choses qu'on a entendues intérieurement à travers cette lecture. Car le Saint-Esprit lit avec nous, n'est-ce pas? Alors, voici, je vous avais dit ça l'autre fois, je vous le répète, on prie, Seigneur, parle-moi par ta parole. Hein? Ensuite, lire 2 fois lentement, méditer, donc c'est un peu se promener dans le texte avec notre cœur, avec notre pensée. Le mot méditer traduit un mot de la Bible qui est mastiquer ou ruminer, hein? comme les vaches en fait, qui ruminent l'herbe. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez du temps, ça aide. Posez à Dieu la question, Seigneur, veux-tu me parler par un verset particulier? Et faire silence et écouter. Avec ton crayon, ton stylo et ton calepin, pourquoi pas noter le verset? Pourquoi pas noter ce que tu entends, peut-être en rapport avec une action possible? Et si tu sens que tu as reçu quelque chose, prends le risque de l'appliquer, de le mettre en pratique. Faites pas juste l'oublier, parce que c'est comme ça que votre foi va grandir. C'est de mettre en pratique ce que tu sens que Dieu te demande de faire. Puis si c'est quelque chose de flyé, comme j'ai dit l'autre fois, si c'est quelque chose que tu n'es pas sûr que ça vient de Dieu, c'est correct aussi d'en parler avec quelqu'un d'autre, une personne de confiance, voir si la personne peut-être vous aide à confirmer. Oui, ça peut arriver que le Seigneur vous révèle quelque chose, vous souffle quelque chose, et puis vous allez réaliser, OK, ça, c'est pas pour mettre en pratique tout de suite. C'est quelque chose à garder dans mon cœur pour l'avenir. Ça peut arriver aussi. Et donc, il faut être sage aussi. Donc, mes frères et sœurs, entrons dans cette période de Noël avec ce nouveau désir, ou ce désir renouvelé, d'écouter, et cette foi que Dieu veut me parler. Amen.